France Inter. Simon Le Baron. Le 7-10.
Nous sommes le mardi 9 avril. Bonjour Anaïs Feugin.
Bonjour Simon, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, contraindre les États à agir contre le changement climatique.
C'est ce que la Cour européenne des droits de l'homme peut décider ce matin dans une décision qui, dans ce cas, ferait date. Elle statue sur trois dossiers de citoyens victimes du changement climatique. Après les débats sur la rigueur, le gouvernement veut passer à autre chose. On parle réforme de la fonction publique aujourd'hui. À Marseille, les sinistrés de la rue de Tivoli, toujours pas indemnisés un an après l'explosion meurtrière des immeubles de leur quartier. Et puis ils ont connu le grand frisson, l'éclipse de soleil vue par les yeux des Américains.
Les invités du 7-10 d'Inter ce matin à 7h50. Alexandra Ben Saïd, bonjour.
Bonjour, bonjour tout le monde. C'est un intellectuel qui aime descendre dans l'arène, l'écrivain Pascal Bruckner. Depuis 40 ans, ses essais controversés sur les minorités, l'antiracisme, le féminisme font réagir et donc réfléchir. Son nouvel ouvrage est consacré à ce qu'il voit comme un mal du 21e siècle, la victimisation. Interview stimulante, Simon, au programme de 7h50.
Stimulante aussi l'interview de Marine Tondelier, secrétaire nationale du Parti Les Écologistes, dans le grand entretien de la matinale à 8h20. Et à 9h20, Mathilde Serrel sera avec la philosophe Joëlle Zaskin.
France Inter.
Le temps passe et la tendance s'affirme depuis 10 mois maintenant. Chaque mois bat son record absolu de chaleur sur la surface du globe. Nouveau record de température pour mars 2024 selon les relevés ce matin de l'Observatoire européen Copernicus. Il a fait 1,68 degrés de plus qu'un mois de mars normal dans le climat de l'ère pré-industrielle. Résultat, depuis un siècle et demi, de la combustion des énergies fossiles, de la déforestation massive et de l'agriculture intensive. Et alors que l'humanité continue d'augmenter ses émissions de gaz à effet de serre au lieu de les diminuer fortement, des citoyens lassés de l'inaction de leur politique se tournent vers la justice pour contraindre les États à agir face au changement climatique. Décision très attendue ce matin à 10h30 de la Cour européenne des droits de l'homme qui va se prononcer pour la première fois sur la responsabilité des États en matière climatique. Trois décisions dans trois dossiers, des femmes retraitées suisses, des jeunes portugais mobilisés après les incendies qui ont ravagé leur pays et l'ancien maire de Grande-Synthe, inquiet du risque de submersion de sa ville, Rémi Brancato.
Depuis 7 ans, Sofia Oliveira, 19 ans aujourd'hui, dit avoir souffert des incendies du réchauffement au Portugal. Pour elle, les 32 États qu'elle attaque auraient dû agir et réduire leurs émissions de carbone.
Ils disent que nous ne sommes pas vraiment affectés par les vagues de chaleur, que nos inquiétudes pour l'avenir relèvent du fantasme. On espère vraiment que la Cour n'écoutera pas ce type d'argument.
Pour Jerry Leeson de l'ONG britannique GLAN, qui l'accompagne, ainsi que 5 autres jeunes, une condamnation ferait bouger les lignes dans chaque pays.
Une décision de la Cour serait contraignante légalement. On le voit dans tous les dossiers climatiques. Les tribunaux interprètent les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Désormais, ils auraient un jugement venant de Strasbourg sur le climat. Cela renforcerait donc la position de ceux qui portent ces affaires en justice.
Dans cette affaire, comme dans les deux autres, les requérants estiment que leurs droits sont mis en danger.
Photos sur le fait qu'il y a une atteinte aux droits humains.
Pour l'avocate Corinne Lepage, qui défend l'ancien maire de la ville de Grande-Synthe, la CEDH peut changer la jurisprudence.
Beaucoup d'ONG aujourd'hui considèrent que le droit à un climat stable fait partie des droits humains. Parce que s'il n'y a pas de climat stable, les autres droits deviennent extrêmement difficiles à s'exercer.
Et à la CEDH, 6 autres requêtes de citoyens allemands, autrichiens ou encore italiens sont suspendues à ces décisions.
Copernicus nous apprend aussi ce matin que la température des océans n'a jamais été aussi chaude sur la planète, plus de 21 degrés de moyenne en surface. Cette surchauffe entraîne plus d'humidité dans l'atmosphère et donc plus d'instabilité météo, comme des vents violents ou des pluies torrentielles. Ce matin, 11 départements sont toujours en vigilance orange pour crues ou vagues submersion, à savoir tout le littoral, du Finistère jusqu'au Pas-de-Calais à cause de la tempête Pierrick. La circulation de certains trains est interrompue dans le Calvados et la Manche. Odile Thominet est la maire de Surtainville, pas loin de Cherbourg, commune très exposée au vent. Elle est inquiète pour la dune qui protège une dizaine de maisons.
C'est vrai que c'est très angoissant puisque nous avons quand même une bande de maisons qui est derrière l'espace dunaire. Avec les assauts des tempêtes régulières, nous apercevons vraiment d'un recul du trait de côte, une érosion, de l'espace dunaire. Il y a quelques mètres qui partent chaque année. Nous avons quelques brèches pour accéder à la plage, notamment pour les secours. Et ces brèches, nous les avons fermées par des blocs de béton. afin de préserver, puisque je veux dire, si la mer s'engouffre par ses brèches, ça veut dire que j'ai l'impact sur une partie des habitations qui sont concernées derrière cette dune.
La maire de Surtainville, Odile Tominé, avec William Delesseux. Pour l'instant, pas de dégâts signalés avec le passage de cette tempête.
Vers une nouvelle réforme de la fonction publique.
Le ministre lance des concertations aujourd'hui pour un projet de réforme à l'automne qui doit renforcer la rémunération au mérite des fonctionnaires, faciliter les mutations d'une branche à l'autre. On en parle dans l'édito Écho à 8h moins le quart. Réorganisation déjà dénoncée par les 8 organisations syndicales et qui s'ajoute à la réforme de la formation des enseignants, aux mesures présentées par le Premier ministre sur l'accès aux soins. Bref, comme si Maxence Lambrecq, le gouvernement voulait sortir du débat sur la rigueur budgétaire et passer au concret.
C'est bon, pas besoin d'en faire plus, tout le monde a compris que les caisses étaient vides. Voilà ce qui circule en ce moment dans les couloirs des ministères. Ce débat est anxiogène, admet Gabriel Attal, et risque de plomber la consommation et donc in fine les recettes fiscales. Passons à autre chose et n'attendons pas les européennes. L'Élysée a ainsi donné son feu vert à des annonces déjà ficelées depuis des semaines. La nouvelle formation des enseignants, qui devait au départ revenir à Amélie Oudéa-Castéra, les mesures pour l'accès aux soins que tentaient de freiner les syndicats de médecins, la réforme de la fonction publique que le ministre a dans ses cartons depuis des mois. Bientôt, les 100 jours de Gabriel Attal à Matignon. Et alors, c'est quoi le bilan? Qu'est-ce qu'on aura fait avancer? Commence à s'inquiéter son équipe. On se fait vite rattraper ici par la gestion de crise. Et dans le gouvernement, il n'y a toujours que 4 ministres qui existent. Matignon en pousse certains sur les plateaux, convaincus que la stratégie anti-RN pour les européennes passe bien plus par des décisions concrètes que par des affiches bien faites.
La négociation sur l'emploi des seniors se prolonge aujourd'hui, reprise des discussions. À 10h ce matin, les syndicats veulent des contreparties pour les salariés depuis que l'âge de la retraite est passé à 64 ans. Pendant que le Sénat discute aujourd'hui de raboter le droit de grève dans les transports, une proposition de loi de la droite propose d'octroyer au gouvernement un quota de 30 jours par an durant lesquels les personnels des transports publics seraient privés de leur droit de grève. Ça vise les vacances scolaires, les jours fériés, les élections et les événements d'importance majeure. Et quand on parle transport, on parle aussi voiture. Une proposition de loi étudié ce soir en commission développement durable veut obliger les entreprises à électrifier massivement leur flotte, voitures de fonction, voitures de service et aussi voitures de location, mais les loueurs refusent d'aller plus vite, Sandy Dauphin.
20% des voitures achetées pour les flottes d'entreprises devront être électriques en 2024 d'après cette proposition de loi, un objectif qui grimperait petit à petit à 95% des achats en 2032. Impossible, disent les loueurs de voitures, 6% de leur flotte est électrique et ils ont déjà du mal à louer, explique le président de la société Sixte pour l'Europe de l'Ouest et du Sud, Jean-Philippe Doyen.
Aujourd'hui, au sein de notre secteur, il y a moins d'un véhicule électrique sur deux qui est loué au quotidien. Beaucoup hésitent pour plein de raisons. Les questions d'autonomie du véhicule, la crainte de ne pas savoir ce que je dois faire pour recharger en cours de route. Nos clients sont libres de leur choix et on ne peut pas leur imposer de rouler en véhicule électrique s'ils ne le souhaitent pas.
Argument visiblement entendu par le député de la majorité Damien Adam, auteur de la proposition de loi. Il devrait donc y avoir des amendements pour assouplir les objectifs fixés aux loueurs de voitures.
La réglementation, elle a été réfléchie en priorité pour des véhicules de fonction et les véhicules de service. Donc ça va prendre un peu plus de temps pour le marché de la location courte durée et donc c'est important pour cela de travailler à une trajectoire spécifique.
L'enjeu est de taille pour verdir le parc automobile français. Aujourd'hui, 6 voitures neuves sur 10 sont achetées par des entreprises, des sociétés de leasing et de location courte durée.
Après Next City et Vinci Immobilier, un troisième grand promoteur annonce un plan social. Bouygues Immobilier veut supprimer 225 postes à cause de la crise que traverse le secteur. Des matériaux plus chers, l'effondrement de la demande de logement à cause des taux d'intérêt élevés.
Il est 7h09 sur Inter à Marseille. Voilà un an qu'ils vivent hors de leur logement.
Oui, les sinistrés de la rue de Tivoli, dans le centre-ville. Il y a un an, dans la nuit du 8 au 9 avril, une explosion, sans doute due au gaz, met à terre un immeuble entier. Un deuxième s'effondre, faisant 8 morts. Des centaines de riverains sont relogés. Aujourd'hui, 14 immeubles du secteur sont toujours interdits d'accès. Les sinistrés doivent se battre pour obtenir des indemnisations. À Marseille, Mathilde Vinceneux.
Le balcon de son
appartement donne sur le trou béant laissé par l'explosion. Ronan Michel attend de pouvoir réemménager ici avec sa famille. Son immeuble a dû être ceinturé pour rester debout. Mais il faut encore refaire les faux plafonds, vérifier la plomberie, l'électricité, la toiture.
J'espère qu'on n'aura pas de reste à charge, mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire. On a des dégâts secondaires qui ont été engendrés par la phase de sécurisation du site qui ne seront pas prises en charge, par exemple pour notre système de chauffage. Donc on se retrouve face à des difficultés qui s'accumulent en fait. Avec mon épouse, en fait, on y pense tous les jours.
Ça met les gens dans des stress vraiment de se dire qu'est-ce qui va me rester financièrement comme argent, est-ce que je vais réussir à m'en tirer.
Roland Bellessa, coprésident du collectif des sinistrés de la rue de Tivoli, son appartement a été entièrement soufflé. Il reproche aux assurances de faire traîner le paiement des indemnités en attendant que la justice désigne un responsable, ce qui pourrait prendre des années.
Les assurances disent non, mais il n'y a pas de responsabilité, on ne sait pas qui paiera, donc on ne peut pas s'engager. Ce qu'on demande finalement, c'est déjà d'avoir quelqu'un qui paye en attendant la responsabilité.
Avec le soutien de la mairie, le collectif milite pour la mise en place d'un fonds d'avance global pour l'indemnisation de tous les sinistrés. C'est ce qu'avaient fini par obtenir les victimes de l'explosion de la rue de Trévise à Paris, mais ce drame n'a visiblement pas fait jurisprudence.
Dans les Alpes de Haute-Provence, l'enquête des gendarmes avance. Après la découverte de restes du petit Émile, un nouveau fragment d'os du garçonnet a été retrouvé dans la même zone, ce qui ne permet toutefois pas d'y voir plus clair sur la cause de son décès. Emmanuel Macron signe ce matin une tribune commune avec les présidents égyptiens et le roi de Jordanie, un texte publié dans le journal Le Monde, le Washington Post et des quotidiens égyptiens et jordaniens pour appeler à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et la libération de tous les otages. Les trois dirigeants parlent d'un nombre intolérable de victimes et mettent en garde contre une offensive à Rafah qui ne ferait selon eux qu'accroître les pertes humaines et les souffrances et entraîner une menace d'escalade dans la région. Hier, le Premier ministre israélien a dit qu'une date avait été fixée pour une offensive sur Rafah. L'accord a finalement été approuvé par les ambassadeurs des 27 hier soir sur les importations de produits agricoles ukrainiens. Il confirme ce qui avait été décidé, à savoir le plafonnement de certaines importations exemptées de droits de douane. Volailles, œufs, sucre, maïs et miel, mais pas le blé tendre et l'orge. Enfin, ils s'en souviendront toute leur vie, ces vénards d'Américains qui ont observé hier l'éclipse totale de soleil, un phénomène astronomique rare en un lieu donné. Rien qu'au Texas, 1 million de personnes ont pris leur disposition pour être aux premières loges. Thomas Harms a fait comme tout le monde, il s'est rendu à Waco où l'éclipse a duré le plus longtemps, 4 minutes 13 secondes.
Voilà la réaction de ces familles venues des quatre coins du Texas, de Louisiane et du monde entier pour assister à l'expérience de l'éclipse totale. 4 minutes et 13 secondes où un simple halo entoure la Lune, une expérience rare et immanquable. Daniel Fast est venu avec toute sa famille.
C'est cool, c'est unique, c'est une superbe expérience, inspirante et qui touche tout le monde. Mais on ne peut pas la revivre comme en grimpant une montagne, par exemple. Il faudra la chercher la prochaine fois si on veut revivre cette expérience, quand elle aura lieu.
Chacun a réagi à sa manière. Des oiseaux sont partis se coucher avant de se rendre compte que le soleil revenait. Les lampadaires automatiques se sont allumés face à cette obscurité. Et tout d'un coup, 10 degrés de moins. Megan et elle, encore sous le coup de l'émotion.
Ma fille et moi avons pleuré, je n'arrive pas à l'expliquer. J'étais dépassée par ce que je voyais et ça m'a arraché des larmes.
Quand les écoles de la région n'ont pas fermé, ce sont les parents qui ont encouragé leurs enfants à faire l'école buissonnière pour vivre cette expérience de sciences naturelles en direct.
Je suis enseignante et j'ai dit, je prends ma journée.
L'éclipse passée, les enfants ont repris leur jeu comme si de rien n'était, mais pour sûr, cette expérience va quand même rester gravée en eux. Waco, Thomas Harms, France Inter.
Voilà, et pour observer ce phénomène, hein, rendez-vous en 2026 en Espagne.
Et on pourra parler de vénard espagnol, même
voilà.
Si on sera plus près pour faire le déplacement. Merci Anaïs Feugat. Dans 3 minutes, le Zoom, la suite de notre série sur la famille en France. Et ce matin, deuxième épisode sur les jumeaux.